Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, vous avez remarqué que l'exposé que je vous ai fait sur l'Église, enfin ce n'est pas moi, c'est la tradition de l'Église, la théologie catholique, cet exposé, cette doctrine diffère considérablement de la doctrine qui est enseignée couramment. Les deux éléments les plus nets et les plus frappants de cette perversion, de cette subversion, il faut bien dire le mot, c'est premièrement une importance exagérée, pour ne pas dire presque qu'on identifie le pape et l'Église, donc une importance exagérée donnée au pape. Et la deuxième chose notable, c'est que l'obéissance au pape, au chef, devient la première de toutes les vertus. Il est important que je vous dise comment on en est arrivé là, parce qu'il s'agit ni plus ni moins que du mystère d'iniquité. Cette subversion de l'Église est à replacer dans la grande lutte de Satan contre Dieu, dans la grande lutte qui a commencé avec la tentation d'Adam et Ève au paradis terrestre, qui s'est poursuivie avec la lutte du démon contre notre Seigneur Jésus-Christ, et le démon a cru tenir la victoire lorsqu'il fit crucifier notre Seigneur. Et il s'est rendu compte trop tard que c'était au contraire notre Seigneur qui l'avait vaincu. Lutte qui va se continuer durant tous les siècles de l'histoire de l'Église, d'où l'importance de connaître l'histoire de l'Église, et qui va se poursuivre avec tous les événements décrits par l'Apocalypse. C'est un grand mystère, mais à partir de l'apogée du Moyen-Âge, disons du XIIIe siècle, Saint-Louis, il y eut un lent abandon de notre Seigneur Jésus-Christ qui commença d'abord par un abandon de l'esprit de foi. Et la Providence a permis que petit à petit on descende vers l'humanisme, le protestantisme à travers la fausse renaissance, ce qu'on appelle la renaissance mais qui n'en est pas une. Et puis les fausses philosophies du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie, la révolution, le libéralisme du XIXe qui est un siècle horrible, les guerres mondiales et la troisième guerre mondiale dont nous parlait Mgr Lefebvre qui avait connu trois guerres. La troisième est la pire de toutes, celle du Concile Vatican II. Le bon Dieu permet ces crises, ces défaites apparentes, parce que, comme le dit la Très Sainte Vierge à Fatima, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Notre victoire sur le monde, dit Saint Jean, c'est notre foi, et notre Seigneur est vainqueur de ses ennemis beaucoup plus glorieusement lorsque ceux-ci ont montré leur force que si Dieu les vainquait, c'est-à-dire était vainqueur, dès le début de la lutte. La cause première de ce mystère d'iniquité, c'est la perte de l'esprit de foi à cause des passions humaines, ce qui entraîne une diminution de la charité envers Dieu. Or, nous avons vu que la charité est une amitié, que toute amitié est une société, et de même que toute société est une amitié, et par conséquent, cela entraîne une perversion de toutes les sociétés, la société civile politique, bien sûr, mais également la société ecclésiastique, c'est-à-dire l'Église. Comme il y a de grandes habitudes acquises, comme il y a des habitudes de piété, de foi d'abord, de foi, de piété, de vertu, de comportement chrétien, le décalage entre la diminution de l'esprit de foi et de la charité, avec les conséquences, le décalage dans le temps est grand, ce qui fait que on ne voit pas directement la cause. Et comme la chute est lente, on a oublié ce qu'était la vérité première, ce que devait être vraiment le comportement chrétien. Donc je vous ai dit, la cause première, c'est la perte de l'esprit de foi. Monseigneur Lefebvre insistait beaucoup sur l'esprit de foi. L'esprit de foi, c'est la foi enrichie, guidée par le Saint-Esprit, au point qu'elle éclaire et guide toute notre vie. La foi, c'est de croire. Croire que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. De croire que Jésus est Dieu et homme, qu'il est le Sauveur. L'esprit de foi, c'est de vivre tellement de ces vérités que ces vérités vont influencer notre vie. Et c'est la raison pour laquelle je vous fais ce sermon sur les causes de la subversion de l'Église. Ce n'est pas une conférence historique que je vous fais, ni même une conférence sur les origines chronologiques ou la liste des erreurs. Je vous révèle les causes du mal. Encore une fois, ce n'est pas moi qui révèle, c'est l'Église et Mgr Lefebvre comme dernier à nous avoir tenu le langage de l'Église. Je vous révèle les causes du mal parce que si nous ne remédions pas aux causes, le mal va empirer. Et inversement, si nous remédions aux causes, le mal va diminuer. Pourquoi l'esprit de foi diminue-t-il ? À cause des passions humaines, à cause des blessures du péché originel, qui fait que l'homme a tendance à suivre la loi de la chair, comme dit saint Paul, plutôt que de suivre la loi de l'esprit. Il est évident que, à partir de là, vient une diminution de la charité. Que va-t-il se passer ? On ne cherche plus à comprendre l'ami pour entrer dans ses vues, on cherche seulement à le satisfaire. Vous voyez, un enfant, un fils, disons, dont le père veut faire son héritier à la tête de son entreprise industrielle ou de sa ferme, par exemple, ce fils va chercher à entrer dans les vues de son père pour être un bon continuateur. Si, au contraire, le fils se contente de faire que le père ne soit pas mécontent, ne soit pas fâché contre lui, sans entrer dans les vues du père, le fils, évidemment, ne sera ni un bon continuateur, ni un bon héritier. Et donc, il sera un mauvais transmetteur. Eh bien, on ne cherche plus à comprendre Dieu, qui est le premier de tous les amis, d'où toutes les erreurs sur la sagesse de Dieu et la connaissance de la vérité. Saint Thomas d'Aquin a été un grand saint suscité par Dieu, donné par Dieu à son Église, pour donner confiance aux hommes dans leur intelligence, c'est-à-dire leur intelligence pénétrée par la foi, c'est-à-dire encourager les hommes à entrer dans le mystère de Dieu, et même, comme je vous l'ai dit, à aller plus loin, à comprendre Dieu, à comprendre l'ami, à comprendre l'action de Dieu. Pour différentes raisons que je ne veux pas vous exposer ici, parce que je ne vous fais pas un cours d'histoire de la philosophie, ce serait très intéressant, mais trop long. Pratiquement dès la mort de saint Thomas d'Aquin, et même déjà de son vivant, mais de son vivant, saint Thomas a été le plus fort. Mais dès la mort de saint Thomas d'Aquin, se sont levés des faux philosophes qui disent qu'on ne peut rien connaître aux œuvres de Dieu et que la foi suffit pour lui obéir. Il y a presque même un anéantissement de l'intelligence au profit de la seule foi, mais si la foi n'est pas une œuvre d'intelligence, alors que devient-elle ? Elle devient un arbitraire. C'est très important cela. Nous sommes les amis de Dieu, et la première chose qu'un ami fait envers son ami, c'est de lui communiquer ses secrets. Notre Seigneur le dit dans l'Évangile. « Je vous ai révélé toutes choses parce que vous êtes mes amis. » Le maître ne parle pas ainsi cœur à cœur avec des simples serviteurs, encore moins avec des esclaves. Il parle cœur à cœur avec des amis. Cette erreur dont je viens de vous parler s'appelle le nominalisme. Elle a été suscitée par un franciscain, Don Scott, un anglais, et complétée et aggravée par Occam, un autre franciscain. Puis arrive l'humanisme. L'humanisme qui est un début de paganisation, faut bien le dire. Sous prétexte d'admirer la beauté, l'intelligence, il faut bien le dire, de la sagesse antique, grecque et latine, on refuse de voir que toute cette beauté avait été mise en valeur et toute cette sagesse avait été mise en valeur par saint Thomas d'Aquin et par l'Église, hein, et auparavant par saint Augustin. Toute l'Église a recueilli un héritage précieux de la sagesse grecque et de la noblesse romaine. Et alors comme on refuse de considérer ce que l'Église a mis en valeur, ben il ne reste plus qu'à fouiller dans les fonds de poubelle. C'est l'époque de Michel-Ange avec son David, le roi David, le grand roi David, sculpté d'une façon honteuse, dans une nudité provocante. Ou bien les peintures de la chapelle Sixtine, avec Adam, cette espèce de grand adolescent dégingandé, sans aucune énergie, et dont les attributs virils sont placés de façon outrageusement provocante. Ce n'est pas rien, cela. Cela explique beaucoup de choses. Et puis, l'étape suivante, c'est le protestantisme. Je m'étonne qu'on puisse appeler chrétiens les protestants. C'est dû à l'origine historique, parce que ce sont des chrétiens catholiques qui sont devenus protestants. Alors on a pensé qu'ils conservaient quand même une certaine croyance sur certains dogmes, qu'ils conservaient certains sacrements. Mais quand on regarde la doctrine de Luther, celle de Calvin, le protestantisme, c'est de l'anticatholicisme. Or, le roi de France va essayer de faire vivre ensemble dans la même société catholiques et protestants, parce qu'on n'a plus les fortes lumières de la foi, parce qu'on n'a plus le courage, parce qu'il y a des intérêts en jeu, des prétendus intérêts, bien entendu, des intérêts humains. Et puis on en arrive à la fausse philosophie du XVIIIe siècle. Ce sont tous, sauf des philosophes, les Diderot, les Voltaire, qui n'est qu'un polémiste, les Rousseau, les Descartes, qui n'est rien d'autre qu'un mécanicien. Et là, c'est la révolte ouverte contre Dieu qui aboutit à la Révolution française. Les conséquences de cela, je ne parle pas des conséquences du protestantisme, de la Révolution française, je parle des conséquences déjà de la première erreur, le nominalisme. C'est que, puisque on ne cherche pas à entrer dans les vues de l'ami, à comprendre l'ami, on se contente de lui obéir. Donc on remplace les inspirations du Saint-Esprit par une simple obéissance. Je ne vous ai pas dit que l'obéissance était mauvaise, mais enfin elle n'est pas une vertu cardinale quand même. Et surtout, l'obéissance ne peut jamais être aveugle. Alors cela atteint d'abord la société civile, que le chef commande, nous lui obéirons. Quand cela va trop loin, ces faux philosophes déclarent que la souveraineté est dans le peuple, alors que le peuple commande et tout le monde suivra, ce qui est évidemment une pure illusion. Et puis petit à petit, cette paresse chrétienne, il faut bien dire le mot, pénètre jusque chez des évêques, chez le grand Bossuet par exemple. Et puisque le pape est le représentant de Dieu sur la terre, eh bien que le pape commande et on lui obéira. Les papes trouvent cela facile, commode, surtout dans les périodes de crise. Et c'est ainsi qu'on a le ralliement de Léon XIII en 1893 ou 17, et qu'on a Pie XI qui oblige les croisés mexicains qui défendaient l'honneur du Christ, il les oblige à déposer les armes et à se faire massacrer. Je vous disais que le chef commande et on lui obéira, mais comme le chef lui-même ne cherche pas à pénétrer la sagesse de Dieu parce qu'il ne se considère pas comme un ami de Dieu, mais comme un représentant de Dieu, ce qui n'est pas pareil, comme un chef et non pas comme un ami de Dieu et ami des amis de Dieu, alors le chef ne sait même plus pourquoi il commande, ni ce qu'il doit commander. Ça, c'est par rapport à Dieu. En dessous de lui, il ne cherche pas à être compris, il ne forme plus des hommes libres, il ne veut qu'être obéi. La conséquence de cela, c'est la disparition de l'autorité et de la hiérarchie. Alors la disparition de l'autorité, le terme autorité est devenu très ambigu. Parce qu'aujourd'hui, l'autorité désigne le chef qui a le droit de commander arbitrairement et d'être obéi. Or ça, c'est tout sauf une autorité. Ça s'appelle la tyrannie. Alors quand on entend Mgr Lefebvre, par exemple, analysant la situation actuelle de l'Église et dire que c'est la disparition de toute autorité, nous interprétons facilement que c'est la disparition du respect dû au pape et aux évêques auxquels on devrait obéir et auxquels on n'obéit pas. On en conclut que pour restaurer les choses, il faut restaurer l'autorité, c'est-à-dire qu'il faut restaurer l'obéissance. On commence par obéir au supérieur qu'on a immédiatement au-dessus de soi, sans chercher à comprendre. C'est comme ça qu'on a eu la crise du Concile. Obéissez, obéissez, et comme disait Mgr Lefebvre, le coup de maître de Satan, c'est d'avoir jeté toute la tradition dans la désobéissance par obéissance. Et puis le drame de la tradition, la fraternité Saint-Pédis, on obéit au supérieur et puis on tombe dans le ralliement. Or ce n'est pas cela l'autorité. Si vous voulez comprendre ce qu'est l'autorité, je vous l'ai dit mais j'y reviens, il faut comprendre ce qu'est la hiérarchie. Une hiérarchie, c'est un commandement sacré, c'est-à-dire la pénétration du sacré dans toute la société à travers les chefs, à travers l'autorité, c'est-à-dire la sagesse suprême, à travers le pouvoir, c'est-à-dire ce qui réalise l'œuvre, à travers les évêques, à travers les prêtres, à travers les pères de famille, à travers les maîtres chrétiens, à travers les rois, à travers les juges. Alors, quand on a compris ce qu'est l'autorité, on voit que la perte de l'autorité, c'est en réalité la perte de la hiérarchie, c'est-à-dire la perte du sacré, pas seulement du sens du sacré, comme on dit souvent, mais également de l'influence du sacré. Et restaurer l'autorité, ce n'est pas obéir, ce n'est pas trouver un chef qui commande, même un excellent chef. Et restaurer la hiérarchie, ce n'est pas remettre sur le trône de Saint-Pierre un pape fort qui reprenne l'Église vigoureusement en main. Non, restaurer l'autorité, c'est restaurer la sagesse de Dieu qui guide toute l'activité de l'Église et des sociétés. Restaurer la hiérarchie, c'est restaurer l'influence du sacré, c'est-à-dire l'influence de la sagesse de Dieu, l'influence de la charité chrétienne, la grande vertu de charité chrétienne, dans toute la vie sociale, la vie familiale, la vie politique et la vie de l'Église. Voilà pourquoi ce sermon est un des derniers que je vous fais sur l'Église et il sera suivi d'une série que je pourrais intituler « L'Église aujourd'hui » ou « L'Église telle que le Saint-Esprit nous demande de la faire » et qui vous montrera, à la suite bien entendu de la révélation et des apparitions du Sacré-Cœur et de Notre-Dame, je vous expliquerai tout cela pourquoi, qui vous montreront comment on restaure aujourd'hui la vraie autorité et non pas la fausse, la vraie hiérarchie et non pas la fausse, la vraie Église et non pas la fausse, et qui vous montrera comment c'est à votre portée, la vôtre, oui, comment les moyens que nous donne la Sainte Vierge à Fatima, après la Salette, après Lourdes, après la rue du Bac, le Sacré-Cœur qui s'était révélé à Paray-le-Monial, comment tout cela, ce n'est pas seulement une piété personnelle pour nous sauver dans les épreuves, c'est un remède à la décadence des chefs dans l'Église pour restaurer une vraie hiérarchie, pour restaurer l'influence du sacré divin, du sacré cœur et du cœur sacré de Marie, et ainsi recréer réellement l'Église, bref, faire une œuvre aussi belle que celle des chrétiens lors des premiers siècles de l'Église, ces chrétiens qui furent longtemps persécutés et qui, au bout de 2 siècles et demi, presque 3 siècles, ont vu surgir une Église magnifique, sortir du sang des martyrs. Eh bien, de même, aujourd'hui, le bon Dieu veut que nous voyons, ou nous, nos enfants, ou peut-être arrière-petits-enfants, je n'en sais rien, mais que des longues épreuves, et surtout de notre longue fidélité, sortent une Église merveilleuse, triomphante. Elle ne durera peut-être pas longtemps sur terre, mais cette restauration se fera glorieuse et définitive dans le ciel, car il faut quand même ne pas oublier que travailler à la splendeur de l'Église ici-bas, c'est travailler à la splendeur de l'Église victorieuse au ciel, dans lequel, j'espère, mes bien chers frères, nous serons tous réunis, vous, moi et tous ceux que nous aimons, autour du cœur immaculé de Marie et du sacré cœur de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.